Le fait d'avoir été persécuté pendant la guerre et d'avoir perdu ma famille m'a rendu sensible. Et dès l'âge de 10 ans, c'était mes premiers jours d'école, puisque pendant la guerre, je n'avais pas le droit d'aller à l'école. Donc dès mes premiers jours d'école, je me suis dit, il faut que je devienne écrivain. Et j'ai un frère d'âme dans cette aventure, c'est Georges Perec, qui a dit exactement les mêmes mots au même âge, et il est devenu écrivain. Moi, j'espère. Après un trauma, ou bien on reste mort, ce qui arrive, ou bien on se remet à vivre, et qu'est-ce qui nous permet de se remettre à vivre ?
Le grand atelier.
La littérature, l'écriture est un moyen important pour le retour à la vie.
Sur France Inter.
On parle souvent de l'innocence de l'enfance, et je me demande quel sens a cette expression pour Boris Cyrulnik. A-t-il jamais eu l'occasion d'être innocent, c'est-à-dire insouciant et léger ? Si vous lisez ses livres, Les vilains petits canards, Sauve-toi, la vie t'appelle ou La nuit, j'écrirai des soleils, eh bien vous connaissez son histoire. Ses parents meurent en déportation, lui-même échappe de peu au camp, arrêté, il s'échappe, on le cache, on le prend en charge, il est placé comme garçon de ferme sous un autre nom, Jean Laborde, et il survit à cette tragédie, à ce fracas que fut sa vie d'enfant. Enfin redevenu Boris Cyrulnik, il réalise ses rêves de petit garçon de 10 ans, exercer la psychiatrie, la neuropsychiatrie et devenir écrivain. Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Quand vous entendez parler de l'innocence de l'enfance, ça provoque quoi en vous ? Est-ce que ça vous irrite peut-être même ?
Non, ça provoque l'incrédulité. Parce que s'il y a un pervers, c'est bien l'enfant. Le pervers, la définition du pervers, c'est celui qui est centré sur lui-même. Il n'y a pas encore d'altérité. Or, les enfants, on commence tous notre vie en étant centrés sur nous-mêmes. On découvre l'altérité au fur et à mesure de nos rencontres et de notre développement. Donc, les enfants ne sont pas innocents du tout. Ce sont des petits pervers.
Et beaucoup le restent ou pas ?
Alors, les pervers restent pervers. Ça, je viens de paraphraser Papa Freud. Nous étions pervers, mais grâce à notre développement et grâce à nos rencontres, on n'est plus pervers.
Ouf ! Bienvenue dans votre grand atelier. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez carte blanche. C'est vous qui recevez, qui invitez. En l'occurrence, dans cette première heure, Xavier Emmanuelli. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Et Philippe Brenneau. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Xavier Emmanuelli, je le rappelle, médecin, fondateur du SAMU social de la ville de Paris, ancien ministre chargé de l'action humanitaire dans le gouvernement Juppé. Est-ce que c'est vrai que Jacques Chirac vous appelait le Toubib ?
Oui, il m'appelait Toubib. Oui, c'était une espèce de familiarité bienveillante. Moi, j'étais très, très respectueux. En parlant comme ça, aussi familièrement, il obtenait ce qu'il voulait.
Oui.
Bien entendu.
Et vous lui disiez, monsieur le président, j'espère.
Oui, un jour, il m'a dit, tu sais, on devrait se tutoyer. Je dis, monsieur le président, j'y arriverai jamais.
Philippe Brenneau, médecin, psychiatre, anthropologue, thérapeute de couple, il m'a dit, surtout, ne dites pas sexologue, ça n'est pas tout à fait la réalité. Vous confirmez ?
Oui, je participe à enseigner ou à apprendre aux médecins qui n'ont pas entendu parler de sexe. Car nous sommes trois médecins ici.
C'est vrai.
Pendant 8 ans de médecine, on ne parle pas de sexualité. Et donc, apprendre aux médecins, aux psychologues qui sont aussi naïfs que les médecins, eh bien, la complexité de la sexualité humaine.
Vous êtes aussi universitaire et puis vous sortez régulièrement des livres. Le dernier apparu aux arènes, Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? Il nous faudrait une journée sur France Inter. Et je tiens aussi à signaler ce livre important de vous et intéressant, Le génie et la folie, où vous racontez nos grands aînés, écrivains, musiciens, nos grands génies en France, qui souvent côtoient à la fois le génie et la folie. Boris Cyrulnik, pendant ces 2 heures avec vous, on va écouter aussi de la musique, des chansons. Vous écoutez, vous, beaucoup de musique ?
Très peu. Quand j'étais gamin, je pouvais travailler en écoutant de la musique et maintenant je ne peux plus faire qu'une seule chose à la fois, écouter de la musique ou travailler.
Ça vous fait souffrir ou pas, ça, non ?
Non, parce que les deux sont un plaisir. C'est pas un plaisir de même nature. Le plaisir de la musique, maintenant, c'est comme une caresse intellectuelle. C'est comme une caresse émotionnelle, cérébrale.
Mais c'est sensuel, ce que vous dites.
C'est sensuel. La musique est sensuelle, bien sûr. Même en éthologie animale, on sait que si on veut qu'un taureau aille à la vache, il faut lui passer du rock avec des couleurs rouges et vertes. Parce que si on lui passe du Jean-Sébastien Bach, il reste frigide.
J'ignorais.
Votre vie est transformée maintenant.
Ah oui. Savoir que j'ai été pervers, que je ne le suis plus, et je penserai à ces couleurs aussi en voyant les taureaux. On peut vivre sans musique. Moi, je connais des personnes qui coupent dès qu'ils entendent de la musique. On les dit d'ailleurs à musique. Mais vous dites, Boris Cyrulnik, est-ce que c'est encore une vie quand on vit sans musique et sans amour ?
Alors, Freud était sans musique, à musique. Il allait à l'opéra, mais il ne tenait compte que du livret. Il y avait un bruit qui le gênait, parce que ce qui l'intéressait, c'était les événements. Et le bruit qui le gênait, les autres appelaient ça musique. Che Guevara ne comprenait pas la musique. Donc c'est probablement une question de câblage cérébral. Et Freud avait fait enlever le piano parce que ça l'empêchait de penser. Alors pour un juif viennois, enlever le piano, c'était impensable. Donc vous comprenez pourquoi il s'est réfugié dans la psychanalyse.
Vous avez fait des expériences musicales, vous, le neuropsychiatre, avec des bébés. Ils sont sensibles, je crois, aux basses fréquences ?
Alors, dans l'utérus, les hautes fréquences sont filtrées par le corps de la mère et surtout par le liquide amniotique, alors que les basses fréquences sont au contraire très bien transmises. Et ça, on l'a objectivé sans difficulté. Ça permet de comprendre que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. C'est-à-dire que quand le bébé arrive au monde, dans l'heure qui suit sa naissance, il tourne la tête et les yeux vers la source sonore de sa mère. Une autre femme, un autre homme, il bronche pas, il répond pas. Sa mère parle, hop, il s'oriente vers elle. Donc il y a une continuité du lien qui commence dans l'utérus.
Alors je ne sais pas si on a bien fait, on a choisi un crooner pour le côté basse fréquence du musicien, on a choisi The Voice, Frank Sinatra, petit faible pour cette chanson de 1951 signée Erwin Drake, sur le temps qui passe, reprise en 65 par Sinatra, il en fera un succès, donc c'est un flashback sur sa vie et ça s'appelle It Was a Very Good Year.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short. I'm in the
autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine older kegs, from the brim to the dregs. It poured sweet and clear. It was a very good year.
Eh bien, ils réagissent, nos invités médecins mais auditeurs, d'abord amateurs de Frank Sinatra et de musique. Xavier Emmanueli, pourquoi vous aimez autant cette chanson de Sinatra, vous ?
Elle m'a accompagné depuis longtemps, vous savez. Et puis, vous avez vu la douceur, la caresse. C'est une chanson de drague, ça. Il y a longtemps, bien sûr.
Oui, c'est terminé.
Ben oui, bien sûr.
Vous parliez de caresse, effectivement, Boris Cyrulnik, en écoutant Sinatra chanter ça.
C'est une caresse verbale, c'est très érotique, c'est très doux, comme vient de le dire Xavier. Mais les femmes ont le même pouvoir, c'est-à-dire que la Callas, qui avait une voix moins claire et moins précise que la Tebaldi, finalement, elle était plus érotique parce qu'elle avait des basses fréquences, même dans le contrut. C'est-à-dire que quand elle chantait, elle nous caressait.
Et Philippe Bruneau disait quant à lui, lui qui connaît bien les couples, il y a de la testostérone là-dedans.
Oui, et puis il y a une chose dans le chant, c'est que la voix a deux composantes. Il y a celle du sens, on entend les paroles, et quand on ne connaît pas d'ailleurs directement l'anglais, on va entendre la mélodie. Ça, c'est charnel. C'est-à-dire que ce qui sort, c'est comme une sécrétion du corps. Et c'est vrai que la voix très testostéronée des hommes est un instrument de séduction pour les femmes. D'ailleurs, on disait, autrefois, les grands-mères disaient aux jeunes filles, n'écoute pas, ne te fais pas embobiner, n'écoute pas les sornettes, parce que la voix grave des hommes était embobinante.
Xavier Emmanueli.
Je me rappelle Clémenceau parlant des gens pour voter, les électeurs, c'est comme les lapins, ça s'attrape par les oreilles.
Ah oui, nos politiques sont de grands séducteurs, hein, Boris Cyrulnik.
Chaman Delmas avait une voix aiguë et plate. Et probablement, ça lui a joué des tours, ça l'a handicapé. Je crois qu'il a pris des cours par un chanteur d'opéra pour augmenter, pour maîtriser ses cordes vocales et avoir une voix moins crispante que son ancien.
C'est vrai que beaucoup de politiques font appel à des chanteurs d'opéra.
Oui, mais Hitler aussi, il a fait ça. C'est-à-dire que comme les micros étaient moins bons qu'aujourd'hui, il fallait transmettre l'émotion à distance par des postures. Alors il avait des postures académiques, il avait des vibrations dans la voix. Et effectivement, il finissait par provoquer des transes populaires, des indignations, alors que, comme vient de le dire Philippe Bruneau, le contenu n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la transmission de l'émotion.
On a reçu pas mal de messages d'auditeurs ravis que vous soyez des nôtres dans le grand atelier Boris Cyrulnik. Et l'un d'entre eux, Claude à Grenoble, a demandé « Pouvez-vous demander des précisions à Boris Cyrulnik sur cette notion de résilience ?» Certes, vous en parlez de livre en livre depuis pas mal d'années maintenant, Boris Cyrulnik, mais c'est peut-être pas mal de redire ce que c'est. Votre définition à vous ?
Il n'y a pas plus bébête que la définition de la résilience. Vous êtes traumatisé. Votre cerveau arrête de fonctionner. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes éteint, chaos. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien vous restez prisonnier du passé, vous souffrez, c'est le syndrome psychotraumatique, ou bien vous cherchez à reprendre un bon développement le mieux possible, c'est la résilience, la reprise d'un autre bon développement.
À quel moment vous avez été résilient ? Avec le recul maintenant, vous pouvez peut-être déterminer ce moment-là ?
Dans 50, 60 ans, peut-être plus tard.
Ah, il vous a fallu ce temps-là.
Oh ben, c'est un processus constant, donc la résilience marche tant que marche la vie. Je pense que ça devient moins efficace après l'âge de 120 ans. Pour le moment. Mais jusqu'à 120 ans, on peut y travailler.
Une personne sur deux vit ou a vécu un traumatisme dans sa vie, dites-vous, ça me semble énorme.
C'est énorme, c'est les chiffres de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé. La vie n'est pas facile, hein, c'est-à-dire que les discours qui nous font croire qu'on peut accéder au paradis sur Terre sont des leurres. La vie est pleine d'épreuves et parfois de traumatismes, et que, en fait, l'éducation la solidarité, la mentalisation, l'écriture, ça consiste essentiellement à affronter, à faire quelque chose de son malheur, parce que le malheur arrive. Si on fait rien, le malheur arrive. Alors que le bonheur, il faut aller le chercher avec les dents et avec la plume.
Pour être heureux, il faut lire, il faut s'inspirer des poètes, de nos grands génies, comme l'a écrit Philippe Breneau ici présent. Et puis, il faut peut-être aussi lire du Rimbaud.
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, eux, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles. I pourpre sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, O, l'oméga rayon violet de ses yeux.
Voyelle de Rimbaud, dit par Guillaume Gallienne, ça me semble vous réjouir tous les trois d'entendre Rimbaud, Boris Cyrulnik par exemple. Est-ce encore une caresse ?
Non, c'est une surprise, c'est plus érotique que la caresse, qui est un préalable sexuel. Là, on est carrément dans l'érotisme, on est dans la surprise. Parce que si on veut avoir une rencontre avec l'autre, il faut qu'il y ait une surprise, sinon c'est l'habituation. C'est pour ça que on ne peut pas se chatouiller soi-même. Il faut que quelqu'un d'autre nous chatouille pour nous faire rire. C'est-à-dire qu'il faut une relation. Il faut une relation. Alors ça, Rimbaud, qui sur le plan humain n'était pas d'une délicatesse extrême, sur le plan poétique, c'est extraordinaire parce qu'il fait des synesthésies, des associations surprenantes entre des qualificatifs, mouche bombinante, puanteur cruelle. Il fait des synesthésies. Et Marilyn Monroe, qui adorait faire la cuisine, faisait la cuisine avec des synesthésies, c'est-à-dire qu'elle considérait que ce qui était important dans la cuisine, c'était d'associer les couleurs. Le goût, pour elle, c'était sans importance. Alors, il fallait mettre des carottes et des petits pois pour que ça fasse un mélange de couleurs. Et s'il y avait un beau mélange de couleurs, ça devait être bon.
Qu'est-ce qu'il a vécu d'ailleurs Rimbaud avec ses parents ? Quelle a été sa forme de résilience à lui ? D'abord son traumatisme et puis sa résilience, Boris Cyrulnik.
D'une part, il a été orphelin, il a été isolé, et puis surtout, il vivait dans une ville où il n'y avait aucune aventure, alors que c'était un gars qui aspirait, c'est un hyperkinétique, il voulait bouger sans cesse, et c'est assez étonnant qu'il ait été attiré par la poésie, alors qu'en fait, c'est un homme d'action. Mais la poésie, c'était un refuge, parce que dans la vie quotidienne, c'était un bagarreur, c'était un baroudeur, et il a fini sa vie comme baroudeur, et il est mort à Marseille avec une tuberculose du genou.
Un sarcome, tu as raison.
Oui. Précision de Xavier Emmanuel.
Heureusement que tu es là, sinon ça partait tout seul. Mais il est quand même mort à Marseille.
Il a été amputé, puis...
Les chanteuses résilientes, ça aussi vous en parlez dans votre livre « La nuit, j'écrirai des soleils ». Il y a par exemple Anne Sylvestre, fille de collaborateur. Son père était le bras droit de Jacques Doriot, qui a envoyé des juifs dans les camps. Et elle écrit « Heureusement, sinon je serais devenue folle ». Dit-elle.
J'ai l'impression que tout ça qui a été vécu, ça m'a donné peut-être plus d'empathie que je n'en aurais eu si j'avais eu une vie toute simple et protégée. C'est curieux parce que j'ai reçu, il y a quelques jours, la thèse de doctorat d'une amie qui est médecin. Son sujet, c'est la résilience. La résilience, c'est la résistance des métaux au choc, mais c'est aussi la faculté d'absorber les chocs et de rebondir et de résister. Et elle m'avait dit d'ailleurs, tu es un très bel exemple de résilience. Je pense que ou j'étais détruite complètement, ou je devenais folle, ou n'importe quoi, ou alors je continuais puis j'écrivais, quoi.
Sauvé par les mots, sauvé par l'écriture, ils sont nombreux dans ce cas-là, Boris Cyrulnik, et vous faites partie de ces personnes-là.
Alors oui, d'ailleurs Anne Sylvestre vient de très bien définir la résilience, hein, c'est-à-dire que ou bien j'étais prisonnière du passé et je devenais folle, ou bien au contraire je cherchais à faire quelque chose de ma blessure, et elle en a fait quelque chose, elle a fait une belle aventure de chanson, de poésie, une belle aventure individuelle. La définition, c'est plutôt une définition agronomique, la vraie définition qui existait avant la définition métallurgique. On dit qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la faune et la flore réapparaissent, mais c'est plus la même. C'est la plus jolie définition de la résilience que je connaisse. Alors elle a totalement raison, parce que elle dit aussi par ailleurs que quand elle découvre après la guerre que son père, qu'elle aimait beaucoup, son père s'enfuit, parce qu'il est doriotiste, et donc il s'enfuit, et elle dit: j'étais heureuse au moment où des milliers d'enfants partaient dans les flammes et étaient torturés. J'ai honte d'avoir été heureuse.
Oui, elle parle beaucoup de cette honte, oui.
Elle est coupable de rien, hein. Quand un homme viole une femme, on ne met pas son fils en prison. Donc les enfants ne sont coupables de rien. Mais elle se sentait coupable d'avoir été heureuse quand tant d'enfants mouraient à cause des théories de son père. Alors, ou bien il y a des gens qui ont passé leur vie à s'auto-punir sans arrêt, ou bien elle, pour éviter la culpabilité et l'autopunition incessante, elle s'est sauvée par les mots et par la poésie. Et du coup, elle nous a sauvés aussi, parce qu'elle nous a fait passer des moments magnifiques. Ces chansons sont très jolies, très poétiques.
Et Barbara, victime d'inceste, son père la viole assez régulièrement, on le saura tardivement, c'est aussi une chanteuse résiliente.
Alors elle écrit clairement « Je m'en suis sortie parce que je chante ». Mais il a fallu qu'elle s'arrache au malheur de son enfance, parce que non seulement elle était persécutée par la Gestapo en Belgique, mais en plus elle était violée par son père. Ça, c'est parfait pour être massacrée pour toute sa vie. Or, elle a eu le refuge dans la chanson. Et à ce moment-là, en chantant, elle pouvait dire, comme les Rwandais...
On recevra Gaël Faye tout à l'heure.
On recevra Gaël Faye.
Fils d'une Tutsi.
Qui, eux, peuvent s'en sortir par la poésie, par la chanson. Donc Barbara, et comme beaucoup d'autres, a découvert ce moyen de protection qui est devenu moyen de résilience, puisqu'elle a fait sa vie, elle a repris un autre développement après son traumatisme, ses traumatismes, et avec son traumatisme dans la mémoire. Mais elle en a fait quelque chose.
Le Grand Atelier sur France Inter.
J'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour pour toi, cueillir les premières fraises des bois pour toi, mon amour pour toi. Je t'avais laissé encore endormie au creux du petit jour. Je t'avais laissé encore endormie au lit de notre amour. J'ai pris, tu sais, le petit sentier que nous prenions quelquefois, afin de mieux pouvoir nous embrasser en allant tous les deux au bois. Il y avait des larmes de rosée sur les fleurs des jardins. Oh, que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Seul je me suis promené au bois. Tant pis pour moi, la loup n'y était pas. Pour que tu puisses, en te réveillant, me trouver contre toi, j'ai pris le raccourci à travers champ et bonjour, me voilà. J'étais partie ce matin au bois. Bonjour, mon amour, bonjour. Voici les premières fraises des bois. Pour toi, mon amour, pour toi. Pour toi, pour toi.
Là, je suis content parce que Xavier Emmanuelli découvre cette chanson de Barbara ce matin-là. Vous étiez très attentif pendant la diffusion de la chanson.
C'est une chanson tout à fait émouvante. Je ne la connaissais pas, je vous assure, et c'est bouleversant.
Maurice Cyrulnik, y avait-il des basses fréquences dans cette voix-là, à ce moment-là de Barbara?
Alors Barbara, on entend les basses fréquences, on entend un vibrato même. Elle a une voix pure avec un petit vibrato, sinon si elle n'avait pas de vibrato, ce serait des cris. Donc, elle est émouvante parce qu'elle maîtrise et elle communique cet érotisme de la voix qu'elle maîtrise. Elle peut monter dans les aigus, elle redescend, même dans les aigus, elle a des basses fréquences.
On vous entendait citer Georges Perec comme un frère de résilience dans le générique du Grand Atelier, Boris Cyrulnik, l'auteur de La Disparition, entre autres, dont les parents, comme les vôtres, sont morts durant la guerre, son père au combat et sa mère à Auschwitz, quand il a 6 ans. On va écouter une interview de Perec quand il sort son livre W ou Le Souvenir d'enfance. Chancel lui demande ses souvenirs d'enfant orphelin.
C'était une vie sans attache. Il n'y avait pas de point d'ancrage. Le genre de choses auxquelles je rêvais, c'était de faire mes devoirs à une table familiale avec une toile cirée, avec le père, la mère et la lampe.
Avec la cafetière.
Avec la cafetière.
Qui fume.
Qui fume. Et il fallait que je me construise, disons,
un monde,
oui. Une maison, enfin, quelque chose qui me rattache à ma propre histoire. Il y a eu, d'une certaine manière, un combat qui s'est traduit par un livre qui est à la fois une autobiographie et une fiction, qui est W ou Le Souvenir d'enfance, qui est la recherche
de ses racines, l'enquête.
L'enquête sur ces attaches dont j'ai été privé. Et le problème, d'une certaine manière, c'était de retrouver la douleur qui m'avait été dérobée, parce que finalement, quand mon père est mort, j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Quand ma mère est morte, je ne l'ai pas su. C'était en 43, j'étais dans les Alpes. Et il a fallu que je les enterre, d'une certaine manière.
Votre réaction, Boris Cyrulnik, j'ai presque envie de vous demander, comment vous les avez enterrés, entre guillemets, vos parents disparus?
Comme Georges Perec, sa mère portait le même nom que ma mère, Smoulevitch. Son père s'est engagé dans l'armée française, dans le régiment des volontaires étrangers, comme mon père. Nos pères se sont probablement côtoyés. Il a été dans un home d'enfants à Villard-de-Lans. J'y ai été. La femme, Madame Blanchet, sous laquelle j'ai plongé parce qu'elle était mourante, elle avait reçu des coups de crosse dans le ventre, dont je me suis caché sous son corps pour m'évader.
De la synagogue de Bordeaux.
De la synagogue de Bordeaux. Son fils a acheté une maison à Villard-de-Lans et sa petite fille actuellement habite dans cette maison. C'est-à-dire qu'il y a c'est vraiment mon frère d'âme. On a partagé et effectivement, c'est dans la littérature, c'est dans les mots qu'on a puisé, qu'on a créé, qu'on a fabriqué un autre monde. Et Georges Perec était mauvais élève jusqu'au jour où il a compris que ses parents ne reviendraient jamais. Ses parents sont pas morts. Ils sont disparus. C'est pas du tout pareil.
Vous dites la même chose.
Je dis la même chose. Donc, à ce moment-là, ce mauvais élève a dit, il faut absolument que j'écrive leur vie, leur autobiographie, pour leur fabriquer une sépulture, et il est devenu bon élève. Parce qu'il a vu un projet à réaliser.
Et vous m'avez appris dans votre livre « La nuit, j'écrirai des soleils » que La Disparition, livre célèbre sans la lettre E de Perec, vous l'entendez E comme E, E-U-X, E, mes parents. E, la disparition de.
La disparition de la voyelle E désigne E, mes parents disparus. Et dans W, il a aussi une astuce graphique pour montrer l'absurdité du nazisme. Il invente les Jeux Olympiques. Et à la fin, le dernier est condamné à mort, il est fusillé. Et alors, l'auteur dit, mais pourquoi faut-il fusiller le dernier? C'est idiot. Et on lui répond, il faut le fusiller parce que c'est le dernier. Ah bon, donc c'est normal. Donc on a l'absurdité tautologique d'une théorie qui n'a pas de sens et qui pourtant a massacré des dizaines de millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors je regarde vos invités, vous écoutez comme les auditeurs sont en train de vous écouter, Boris Cyrulnik. Xavier Emmanuelli et Boris Cyrulnik se connaissent depuis pas mal d'années. Je crois que vous étiez étudiants ensemble, c'est ça Xavier Emmanuelli?
Oui, mais lui il était sérieux.
Et vous étiez quoi?
J'étais au café d'en face.
À faire la révolution.
Oui, c'est vrai.
Vous étiez communiste autrefois.
C'était pas un engagement si profond que ça, mais j'étais communiste.
Il était sérieux, Boris Cyrulnik?
C'est-à-dire qu'il courait pas les rues pour faire le coup de poing, non. On s'est connus à ce moment-là. Je faisais des petits dessins, ça l'amusait beaucoup. Mais son humour, c'était pas des éclats de rire, c'était une ironie. Pardon si je te trahis, Boris.
Non, mais je vais te trahir aussi, te contre-trahir, parce que moi, j'avais repéré Xavier, surtout pour ses dessins. Il avait un talent de dessinateur, je crois qu'il tu l'as gardé. Hein. On voyait des petits bonshommes qui grimpaient sur des murs et qui s'accrochaient par le nez et les doigts sur les murs. Et d'ailleurs, je crois que tu correspondais avec une revue.
Tu veux que je la dise, la
mais
revue
oui,
s'appelait Harakiri, après c'est
Harakiri, bien sûr.
Et je connaissais bien Cavana, qui était un grand type. Et là aussi, il avait eu une enfance mouvementée. Et tous ceux qui ont une histoire comme ça dans l'enfance, après, ils deviennent quelqu'un, je crois.
Et puis, on avait un ami commun, c'était Roland Topor.
Ça, c'était un génie, Roland Topor. Non seulement c'est un dessinateur, mais c'est un scénariste. Mais
un poète.
Oui, il fumait tout ce qu'il pouvait se fumer. Enfin, là, il ne se ménageait pas, il allait au bout des choses. Mais quel génie cet homme. On le redécouvre maintenant, je crois.
J'espère, oui. Et puis la métamorphose de l'horreur en humour. On s'est connus, on avait 11 ou 12 ans, et j'étais avec lui quelques jours avant sa mort. C'est à la fin de sa vie que j'ai appris que, comme moi, il avait été persécuté pendant toute la guerre. Mais lui, il le disait avec son humour toporifique. Et il disait, j'étais un grand homme, parce que déjà, à l'âge de 5 ans, j'étais pourchassé par toutes les polices françaises.
Ça me fait penser, son premier livre de dessin, j'étais chez Losfeld, rue du Cherche-Midi, et ça s'appelait « Les masochistes ». C'était, il avait toutes les situations incroyables, compliquées du masochisme.
Xavier Emmanuelli, vous vous êtes vu grandir tous les deux. Vous avez vu Boris Cyrulnik devenir écrivain, être un auteur à succès, faire du bien finalement à ses lecteurs et à ses auditeurs. Mais à l'époque, il est comment, il veut quoi et qu'est-ce qu'il dit de son passé à ses amis?
C'est un homme discret. Je peux le dire devant lui, c'est un homme bon. Vous voyez ce que ça veut dire la bonté? Il pense toujours du bien des gens.
Ça peut être pénible, ça, quand on est son ami.
Non, je trouve que c'est... Au contraire, c'est reposant. Parce qu'on était tous des mauvaises, très mauvaises langues, pas lui. Il regarde le bon côté des gens, quoi. On est des mauvaises langues dans Paris, surtout à la fac, vous imaginez.
Dans le journalisme aussi, vous savez.
Tiens.
Mais pas lui, pas Boris Cyrulnik.
Mais pas journaliste non plus. C'est très facile d'être autour de lui, parce qu'il a cette bonté naturelle de chercher le bon côté des gens.
Vous parlait-il de ce que j'appelais son fracas, car c'est un mot utilisé notamment par Philippe Bruneau à propos de la tragédie de Boris Cyrulnik?
Non, quand je vous dis qu'il est discret, si vous ne lui demandez pas, il ne le dira pas. Il l'écrit par contre. Mais voyez, il n'y a pas d'amertume chez lui.
Vous confirmez, Philippe Bruneau, vous qui l'avez connu à un autre moment, un peu plus tard?
Un peu plus tard, mais il y a quand même assez longtemps qu'on se côtoie. Et moi, je reprendrai les mêmes termes que Xavier Manuel dit. De la discrétion, ça c'est évident. De la gentillesse, Boris, tu en as même trop. Souvent, je te l'ai dit, t'es trop gentil. Ça, c'est une grande gentillesse. Et puis, il y a une chose qui étonne depuis le début, où on s'est rencontrés, où on a fait beaucoup de colloques, de réunions publiques ensemble. C'est l'humour qui te sort de toutes les situations. Parce que on s'est vu dans des situations qui ont été quelquefois très difficiles au niveau émotionnel. Alors, les premières, non, il y avait trop d'émotions, il y avait peut-être un peu de silence. Mais la plupart du temps, c'est un humour qui est caractéristique même de tout ce que tu écris. Parce que c'est peut-être le nerf de ta réflexion. C'est-à-dire, cet humour permet de rebondir sur les choses difficiles. C'est presque l'humour contre la mort.
Une réaction? Des réactions?
Non, mais j'ai du mal à rester simple quand j'entends parler gentiment de moi comme ça.
Mais il s'est dit au moins deux adjectifs, drôle, pratiquant un humour à lui, mais réel, et bon.
Ma femme dit, tu es narapoïaque. Le paranoïaque, c'est celui qui pense que tout le monde lui veut du mal, et le narapoïaque, comme votre serviteur, c'est celui qui pense que tout le monde lui veut du bien. Faut être malade pour ça. C'est-à-dire, faut être complètement délirant pour penser que tout le monde vous veut du bien. Donc, c'est un peu comme ça que ma femme me taquine. Mais je pense que c'est pas faux, mais c'est un mécanisme de défense. L'humour est un mécanisme de défense.
Quand on a vécu ce que vous avez vécu, on n'a pas des moments de haine. Et on n'est jamais gagné par la haine.
Eh ben non, jamais. La haine est un poison de l'âme, et la haine, c'est une manière de rester prisonnier du passé. Quand on veut régler ses comptes, ça veut dire que c'est pas liquidé. Or, pendant la guerre, j'étais entouré de gens généreux, les justes, qui me protégeaient, je me sentais bien avec
eux. Le père de Xavier Emmanueli était injuste, hein.
Le père de Xavier.
Tu le savais.
Et même.
Et ma maman aussi.
Oui, tous les deux. Ils ont caché des juifs pendant la guerre, hein.
Et Xavier écrit dans un de ses livres qu'il remercie une jeune femme juive est protégée par son père et elle va sur la tombe de ton père pour remercier ton père. Et c'est Xavier qui est ému et qui dit « je la remercie ». C'est assez incroyable.
Mon père est enterré dans un petit village sous les mantes sauvages et les fougères. Et un jour, j'ai trouvé, vous savez, des petits trucs en porcelaine. Je me souviens, c'est elle, par quel miracle, qui avait trouvé où était la tombe de mon père et qui avait écrit ça. Et j'ai été plein de reconnaissance pour elle, pour Thérèse. Elle s'appelait Thérèse Babelski. C'est une petite histoire, si vous voulez, mais pour montrer qu'il y a, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, il y a de la poésie.
On va écouter « Voyou ».
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressés de rejoindre son cœur. Tu te lances dans sorte. Tu te lances dans
on parle de Romain Gary. Philippe Bruneau, vous l'avez connu et il est présent dans le livre de Boris Cyrulnik. Vous dites qu'il prenait beaucoup de pseudonymes très différents tout au long de sa vie parce qu'il ne se sentait heureux que dans l'invention de soi, Gary. Pour quelle raison ?
Alors, ça c'est une idée de Philippe. Alors, j'ai repris cette idée parce que je pense que le pseudo nous révèle. Lève un masque. On croit se cacher. Moi, pendant la guerre, j'étais caché par un nom, Jean Laborde, qui n'était pas mon nom, alors que vers l'âge de 14 ans, quand j'ai décidé de devenir écrivain, j'ai choisi un pseudo Boris Aurige, parce que Aurige, c'était celui qui avait provoqué la révolte des esclaves pour se libérer. Donc je me disais, quand je serai grand, j'écrirai des livres qui, et je libérerai les esclaves. Donc le pseudo, c'est un nom derrière lequel on croit se cacher, et en fait, il nous révèle. Or, Gary, alors ça, Philippe le sait mieux que moi, Gary avait une cascade de pseudos, dont Roland de Roussevaux, ou un truc comme ça. Et il a eu deux Goncourt, dont l'un avec un pseudo.
Émile Ajar.
Et puis même le premier, son nom, Gary, c'était déjà un pseudo.
C'est déjà un pseudo.
Philippe Bruno.
Gary est une histoire à part, où il y a un mécanisme de résilience. Gary est, dans la toute petite enfance, déplacé avec sa mère, c'est-à-dire qu'il naît à Vilneux, qui est Vilnius aujourd'hui, mais qui à l'époque est polonais sous occupation russe. Il naît en 1914 et il va être déplacé avec sa mère, certainement en Russie. Là, il y a un petit trou dans sa vie, mais il est très marqué par l'absence de son père qu'il va voir très peu à l'âge de 6 ans. Et puis, il va venir ensuite avec sa mère en France, à Nice. Et Gary va avoir une personnalité fabriquée. D'une certaine façon, il va passer sa vie à sortir de sa peau de Gary, que lui fabrique sa mère, que lui fabriquent les événements. Et ça va être une sorte de dépouillement, quand il dit « le bonheur, c'est d'abord se débarrasser de soi-même ». Le pseudo va être un outil, peut-être, pour Gary. Ce n'est pas ce qu'on a pu dire souvent, une imposture. Gary va se révéler à soi-même, mais jusqu'à avoir un prête-nom, et avoir même un prête-corps lorsqu'il va mettre quelqu'un, son neveu, presque à sa place identifiée. Et quand il n'y a plus rien dans ce corps, à ce moment-là, je peux le supprimer, et c'est comme ça qu'il se suicide en 82. Gary est une histoire à part, dans laquelle il y a de la résilience, mais dans laquelle il y a tout ce travail très particulier pour aller au bout de soi-même, et qui donne une vraie œuvre d'écrivain.
Le voilà, Romain Gary.
En général, on vous dit pour vous changer les idées, pour vous divertir, pour vous délasser, faites de la peinture. Donc moi, je ne fais jamais les choses à moitié. J'ai décidé de faire de la peinture et j'ai eu à ce moment-là la véritable vocation de peindre. Et je fais cette découverte absolument bouleversante qu'on peut avoir la véritable vocation artistique sans avoir une trace de talent artistique.
C'est cruel comme découverte.
Voilà.
Que peigniez-vous ?
Ah, mais je n'en sais absolument rien. Écoutez, je n'étais pas un peintre du tout. J'étais un monsieur qui, pour des raisons que probablement la psychanalyse pourrait seule pourrait, éprouvait le besoin le plus absolu pendant 7, 8, 9 heures, la moitié de la nuit, étendre des couches de peinture sur de la toile.
Étiez-vous au moins un coloriste ?
J'étais un coloriste et je me ruinais en tube de peinture. Et rien ne sortait sur le tableau. Le résultat était qu'à 5-6 heures du matin, je rentrais complètement vaincu, battu, écroulé dans ma chambre à coucher. Et j'étais malade de frustration. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est très simple. Mon médecin m'a défendu de peindre. Et je suis probablement un des rares cas d'hommes auxquels on a dit simplement « Mon cher, je vous ordonne d'arrêter de faire de la peinture, comme on vous dit de vous arrêter de boire ou de fumer. »
Interview savoureuse de Romain Gary qui vous fait sourire, Boris Cyrulnik.
Oui, bien sûr, mais je connaissais pas l'expression de se dépouiller de sa personnalité. C'est une très très bonne expression qui rejoint assez curieusement Lacan. Le moi est l'aliénation première. Alors en langage lacanien, c'est forcément compliqué, mais on peut le traduire en langage de tous les jours en disant pour devenir moi, je suis obligé de renoncer à des tas de choses. Je suis obligé de renoncer à des tas de potentialités et à ce moment-là, je deviens moi. Donc c'est une forme d'aliénation. Et quand on a des tas de potentiels, comme Romain Gary, eh bien on peut choisir des tas de pseudonymes, on peut peindre, on peut écrire, il parlait 6 ou 7 langues, il a passé sa vie à réaliser les désirs de sa mère, donc à ne pas être moi. Puisqu'il réalisait les désirs de sa mère, qui était une mère flamboyante.
Telle qu'il l'a raconté aussi, parce qu'il le raconte a posteriori.
Oui, mais comme tous ces enfants prisonniers amoureux de leur mère, généralement ils en font une mère hyper imprégnante.
Et vous dites, Boris Cyrulnik, que ce qui est important, ce n'est pas le réel, mais la réalité, c'est-à-dire voilà. Ce qu'on pense avoir vécu.
C'est ça, exactement, c'est la représentation du réel. Donc il se représentait sa mère flamboyante, je l'imagine 10 ans avec un accent russe ou polonais, je l'imagine 10 ans, mon fils, tu seras ambassadeur de France, tu seras prix Goncourt, tu seras... Et il l'a été. Il a réalisé les désirs de sa mère, donc il n'est pas devenu lui-même. Donc c'est un processus de résilience incomplet. Il est devenu, grâce à l'écriture, il a construit une belle aventure humaine, mais il s'est pas épanoui, lui. C'est-à-dire qu'il était follement anxieux.
C'est très vrai, oui.
Et à la fin, il s'est suicidé.
Il se suicide, ouais.
Il était très malheureux, hein, une grande part de sa vie.
Je me tourne vers Xavier Emmanuelli, parce qu'on parle des résilients qui sont devenus, après leur traumatisme, de grands génies, de grands écrivains, de grands auteurs qui comptent toujours, ou de grands musiciens, de grands peintres, etc., de grands poètes. Vous vous êtes tourné vers les plus précaires d'entre nous. Vous avez créé le SAMU Social de Paris, c'était en 1993, c'est une date très importante. Est-ce que vous avez rencontré chez ces personnes-là qui n'avaient rien et à qui vous avez essayé de donner quelque chose ou de les mettre en contact avec une possibilité d'aller mieux? Est-ce que vous avez rencontré des gens qui avaient besoin de se raconter et qui ont trouvé une façon de faire des récits d'eux-mêmes?
D'abord, je voulais vous dire que j'avais une vie avant le SAMU Social.
Vous étiez urgentiste, vous avez cofondé Médecins Sans Frontières.
J'ai été 23 ans de Médecins Sans Frontières dans tous les coins les plus pourris quoi, de la planète. Et là, vous rencontrez les gens qui sont dans l'injustice. C'est toujours aux enfants, aux femmes, aux vieux que ça arrive, si vous voulez. C'est des gens sans défense. À mon avis, notre histoire, c'est un parcours initiatique. Comme disait Boris tout à l'heure, il y a des hauts et des bas, des malheurs que vous devez surmonter. On est tous des survivants dans cette mesure. Autrement, on est une victime. Et c'est pour ça que cette notion de résilience me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut construire sur des ruines, sur des cicatrices.
Et vous avez assisté à ça? Vous pourriez nous donner des exemples?
Oui, je peux vous en donner. Simplement que je vous explique.
Oui.
Il y a quelques années, dans la rue, les gens me voyaient avec mon blouson. C'est clochard. D'ailleurs, vous savez, docteur, j'en suis là, c'est vrai, mais j'étais un légionnaire. J'étais à la Légion, moi. Et puis, évidemment, j'ai bien des malheurs. Ma femme est partie avec le mec que je protégeais, que je logeais. Puis j'ai perdu mon boulot. Et puis l'alcool. Et des légionnaires comme ça, j'en ai rencontré en pagaille. J'avais des casernes entières, mais c'est pas vraiment des légionnaires. C'était une image virile de soldats conquérants qui s'était fabriquée. On a tous besoin d'un récit. On se raconte notre propre hagiographie, les échecs, on les oublie un peu, quoi. Et on n'a pas envie de les visiter. Mais on se construit comme ça, par un récit. Alors, j'ai été médecin à la prison de Fleury-Mérogis.
Aussi, oui.
On ne demandait jamais pourquoi t'es là. Et les gens vous racontaient, bon, il y avait 3000 détenus, 3000 erreurs judiciaires, bien sûr. Ils vous racontaient leur propre histoire, qu'ils ont reconstruit au fur et à mesure de leur rencontre avec les travailleurs sociaux, avec les médecins, avec ce qu'ils disaient. On a besoin d'un récit. Mais où est le moi? Et ceux que je rencontrais étaient avides d'être reconnus dans un personnage qui était à eux et comme un manteau qu'ils enfilent à eux. Et où est l'être réel? Je ne peux pas savoir et je ne cherche pas à le savoir. Vous contentez de ces biographies-là. La quête de l'information de vérité, dans l'exclusion, ne la cherchez pas, vous les détruirez.
Maurice Cyrulnik, chacun a besoin de faire son propre récit ou ses propres récits. Le mot, les mots sauvent et peut-être nous métamorphosent.
Exactement. On est contraint au récit de soi pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on vaut. Mais s'il n'y a pas un autre à qui adresser ce récit, on appelle ça la rumination. C'est-à-dire qu'on répète la même souffrance, et on se met soi-même sur le tapis roulant vers la dépression. Lorsqu'on partage ce récit, l'autre est une base de sécurité, on va être étonné, tiens, je me sens mieux depuis que je lui ai expliqué. Elle va comprendre. Si l'autre ne comprend pas, je me sens plus mal d'avoir fait ce récit puisqu'elle ne comprend pas, elle me fait taire. Et puis surtout l'importance des récits culturels. Les journalistes, les écrivains, les fictions, les essais, tous ces récits collectifs, s'ils sont concordants avec mon récit, je redeviens entier. S'ils sont discordants avec mon récit, je suis coupé en deux, je ne peux dire que ce que vous êtes capable d'entendre. Et le reste, je souffre en secret, je viens de paraphraser Georges Perec.
Je souris parce que vos invités lèvent la main, parce qu'ils ont plein de choses à dire. Ils ont 12 ans, là. Philippe Brenneau.
11 ans, j'ai.
11 ans, vous avez-vous déjà?
J'ai toujours eu 11 ans.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Quand on évoque, il y a beaucoup de souffrances. Alors, c'est pas qu'il y en a plus, puisque même Pinker a fait un très beau travail sur la baisse de la violence en Occident, c'est évident. Par contre, on a beaucoup plus de sensibilité, et tant mieux, hein, et on l'exprime plus. Et le premier lieu de souffrance, c'est ce dont je m'occupe tous les jours, il est certainement aujourd'hui dans le couple. Le couple est peut-être le premier objet d'angoisse de nos contemporains. C'est presque l'idée aussi, vais-je finir seul, hein, puisque ce qui marque les 50 dernières années, c'est l'augmentation des séparations, ce que toutes les sociétés sont empêchées, ont réussi à empêcher depuis des millénaires. Et ce que disait Boris à l'instant, chacun un récit de souffrance, pas forcément de l'autre personne, mais l'une des détresses dans le couple, c'est de voir que son récit n'est pas forcément entendu. Et d'ailleurs, la plupart du temps, parce qu'on a des codes différents, c'est encore une fois, j'allais dire, parce que ça rejoint une souffrance sociale, c'est encore une fois les femmes qui ont l'impression de ne pas être entendues, parce que il y a une différence d'attente de l'échange verbal qui serait des caresses verbales, c'est vraiment ça, dans le couple, parce que les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait cette même nécessité. Et il y a vraiment quelque chose, est-ce que mon récit peut être entendu par l'autre? C'est une des clés, notamment du couple.
Xavier Emmanueli, vous vouliez réagir à ce qu'a dit Boris Cyrulnik?
Et ce que vient d'être dit?
Bien sûr, allez-y.
Ce que j'appelle le syndrome du bistrot d'en face. C'est extrêmement important. J'ai beaucoup fréquenté, hein. Et quand vous allez autour du Zinc, les gens vous racontent. Ils vous racontent ce qui leur passe par la tête, dans lequel ils ont un rôle éminent. Les femmes, quand elles étaient plus jeunes, elles vous racontaient leur... on m'a opéré de la totale, des ovaires, la grande mutilation. Et il fallait qu'elles le disent, et pour montrer qu'elles avaient traversé cette épreuve en héroïne, mais qu'ils l'ont stérilisée. Et ce qui se dit au bistrot d'en face, c'est les bobos misères malheurs de la vie qui va. Je veux dire que c'est peut-être un conseil que je pourrais donner aux politiques. Quand ils ont un petit creux idéologique, ils ont qu'à franchir traverser la rue, hein, et aller au bistrot d'en face. Et là, ils entendraient la détresse. Et les trucs et les ficelles que trouvent les gens pour se réparer, en quelque sorte, mini-réparation, c'est les tribunes du quotidien. On a tort de fermer les cafés.
L'éloge du café par Xavier Emmanueli, inattendu dans ce grand atelier. Boris Cyrulnik, vous allez au café à Toulon, vous?
Oui, mais non seulement je vais au café, mais on fait des recherches, des méthodes expérimentales pour confirmer ce que Philippe Brenneau et Xavier Emmanueli viennent de dire. Et j'ai la chance d'être invité par un neuropsychologue et par des historiens qui travaillent actuellement sur ce que vous venez de dire. Et on sait que le récit qu'on se fait de soi, qui est sincère, c'est pas un mensonge. Le récit qu'on se fait de soi est constamment remanié en fonction de nos rencontres. On ne ment jamais, on dit toujours autre chose. Et on ne ment jamais. C'est-à-dire que c'est la représentation de son passé au sens théâtral du terme. Donc une représentation, on peut l'interpréter, on peut le jouer différemment. C'est-à-dire les mêmes faits sont interprétés. Et de plus, la mémoire saine est évolutive. La seule mémoire qui n'évolue pas, c'est la mémoire du syndrome psychotraumatique qui répète toujours l'image de l'horreur. Et là, on est prisonnier du passé, on s'en sort pas, comme disent les gens.
Je vais devoir déjà remercier vos deux premiers invités, Boris Cyrulnik, Philippe Brenneau, merci d'être venu.
Avec plaisir, merci.
Pourquoi c'est si compliqué l'amour? Et bien votre réponse et vos réponses dans un livre publié aux Arènes. Je rappelle aussi que Le génie et la folie, on le trouve chez Odile Jacob. Et je remercie aussi notre Toubib, ancien politique, vous n'êtes plus du tout politique. Je crois que vous n'avez pas été très heureux, vous, comme homme politique.
J'avais pas les codes.
Hein. Vous êtes bien plus heureux aujourd'hui à nouveau médecin.
Je crois, oui.
Et je signale un livre, je ne sais pas si on peut le trouver facilement, Le vieil homme tout noir. Elle n'est pas encore édité. Alors ça s'appellera Le vieil homme tout noir, il y a des textes et des dessins de Xavier Emmanueli qui n'a pas du tout lâché le crayon, hein, ça continue.
Et j'espère que ça marchera.
Et j'aperçois dans le studio, dans la cabine technique, en train d'arriver Isabelle Carré, la comédienne et la romancière, ainsi que Gaël Faye, le musicien, le rappeur et le romancier. A tout de suite, Boris Cyrulnik.
Merci à vous, Vincent Josse. À tout à l'heure pour la suite du grand atelier consacré à Boris Cyrulnik et à ses invités, après le journal de 23h.
L'art est nécessaire pour surmonter l'angoisse de la mort. C'est-à-dire que dès l'instant où un être humain prend conscience qu'un jour il disparaîtra et surtout que ceux qu'il aime disparaîtront, ça déclenche en lui une peur de perdre douloureuse qu'il ne peut combler que par une représentation. Et cette représentation, ça peut être Dieu, ça peut être une activité mentale, ça peut être l'art qui est de la même famille que Dieu, je crois.
Nous avions la science en première heure, et bien voici l'art et la littérature dans le grand atelier du neuropsychiatre et écrivain Boris Cyrulnik, auteur, je vous le rappelle, entre autres, de La nuit, j'écrirai des soleils. Gaël Fay, bonjour.
Bonjour.
Vous arrivez tout droit du Rwanda ?
Non, là j'arrive tout droit d'Argentine.
Ah, monsieur voyage.
Oui.
Vous êtes allé présenter votre livre Petit Pays ?
Oui, qui est sorti en espagnol, et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le public argentin pendant une semaine.
Pour ceux qui ne connaissent pas, et celles qui ne connaissent pas Gaël Fay, c'est peut-être possible, eh bien, il est musicien, il est rappeur, il est écrivain aussi désormais, auteur de ce Goncourt des lycéens, Petit Pays. Vous avez rencontré le succès avec votre premier roman mêlant votre vie et la fiction. Je précise que vous êtes né d'un père français et d'une mère rwandaise. Vous avez grandi au Burundi, Gaël Fay, et vous êtes arrivé en France adolescent, à 13 ans, en 1995, et depuis quelques années, vous vivez là-bas au Rwanda avec votre femme et vos petites filles, et puis vous repassez en France de temps en temps. Bienvenue donc à vous. Dans un instant, Isabelle Carré va nous rejoindre, mais on a envie de vous écouter chanter d'abord. On a choisi le duo avec la brésilienne Flavia Coelho, balade brésilienne. Vous vous êtes rencontrés comment pour chanter ça tous les deux ?
Elle m'a invité à faire une chanson il y a quelques années, et depuis l'amitié est scellée.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche dedans, la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
A situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris. Você torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, recair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté. Un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre. La nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Isabelle Carré vient de faire une entrée remarquée en dansant sur cette balade brésilienne.
Ah oh oui, j'adore.
Vous connaissiez ce titre ?
Ah oui, il est dans mes préférés parce que c'est le Brésil, parce que c'est Gaël, parce qu'il y a de la poésie, parce qu'on est bien avec cette musique-là.
Ils ont l'air heureux, vos invités, Boris Cyrulnik.
Ils n'ont pas que l'air, ils ont aussi la chanson. C'est-à-dire... ils sont heureux.
Oui. Heureux d'être là, en tout cas, et c'est sûr. Ouais.
Et c'est très contagieux, c'est très agréable d'être avec eux, parce que le bonheur est contagieux.
Ah, vous avez raison, il faut le cultiver, le propager, et on essaie dans le Grand Atelier. Pourquoi vouliez-vous et Isabelle Carré et Gaël Faye ?
Parce qu'ils sont très fréquentables, parce qu'ils illustrent de manière poétique ce que nous, on dit de manière théorique. Mais nous, quand on parle théorie, c'est intéressant, mais c'est pas très souriant. Alors que leur manière de parler de nos théories, ça les fait vivre, ça les rend palpables, ça provoque des émotions. C'est pour ça que je suis ravi d'être à côté d'eux.
Quand je vous lis Boris Cyrulnik, je me dis cet homme-là, certes il est écrivain, certes il est neuropsychiatre, mais je suis sûr qu'il aurait aimé être un artiste.
Comment vous faites pour savoir ça ?
Parce que je le devine.
Parce que, effectivement, quand j'étais enfant, je rêvais de faire l'école du cinéma qui s'appelait l'IDEC à cette époque-là. Et j'ai pas eu le courage de le faire. Parce que comme j'étais enfant d'immigré et dans une situation pas toujours facile, je me disais, il faut que je fasse un métier qui intègre, qui accueille. Et la médecine, c'est le métier qui accueille. Donc il fallait que je fasse médecine. Mais si j'avais suivi mes penchants, j'aurais tenté l'aventure du cinéma.
Rêver, vous avez énormément rêvé, enfant, à d'autres possibles que ce que vous aviez traversé comme souffrance, évidemment. La rêverie a fait partie aussi de la famille d'Isabelle Carré. Le titre de son roman, qui marche bien lui aussi comme celui de Gaël Faye, c'est Les Rêveurs. Vous avez rêvé à une vie plus agréable que ce que vous pouviez vivre au quotidien, enfant, mais votre famille aussi rêvait.
Bah oui, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on en a réalisé quelques-uns de ces rêves. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'en faire beaucoup. Après, il y a un tri qui s'opère. En tout cas, si on part pas du principe, voilà, qu'il faut, se projeter même parfois trop haut et ne pas avoir peur de tomber pour finalement, trouver sa place et réussir quand même quelques-uns de ses rêves.
Quand on est enfant, presque adolescent, Gaël Faye au Burundi, dans un pays qui va connaître la guerre civile, qui voisine le Rwanda où se déroule cette tragédie que l'on sait, est-ce que c'est indispensable d'avoir des rêves à ce moment-là ?
Je pense que oui, simplement ma vie a toujours été brumeuse et le rêve, quand je vois mes carnets d'école, les professeurs mettaient toujours ça, élève rêveur. C'était toujours dans... Et on me disait toujours que je regardais les oiseaux par la fenêtre. Et c'est vrai que c'était comme si j'étais un peu extérieur au monde qui m'entourait. Et l'écriture, ça a été pour moi comme une façon de dessiner les contours des choses. Parce que sinon, il n'y avait que de la brume. Et en plus, un assourdissant silence des adultes. Aucun mot n'était prononcé qui avait du sens. Par exemple, ma réalité d'être un enfant et noir et blanc en même temps.
Père français, mère rwandaise.
Pour les uns, j'étais noir, pour les autres, j'étais blanc. Cette question ethnique qui est arrivée dans les conversations et puis qui s'est transformée en guerre, en génocide, en souffrance, sans qu'on nous explique, à part des histoires de nés, de grands, qui ne me disaient rien du tout. Et puis ensuite, cet arrachement à un pays que j'aimais, à un quartier, à une famille, à une école.
Vous arrivez à 13 ans en France.
Voilà, hein. Pour arriver en France du jour au lendemain.
Dans les Yvelines.
J'ai voulu en discuter avec ma mère, qui elle-même avait fui les premiers pogroms au Rwanda anti-Tutsi des années 60. Elle m'a dit, il faut avancer, il faut regarder devant soi, c'est du passé, ne parlons plus de ça. Et pour m'adapter à ma nouvelle réalité de vie en France, c'est vrai que c'était... Il y avait comme un mur entre moi et mes camarades de classe. J'avais vécu 2 ans dans la guerre, j'avais une autre expérience, et c'était impossible de leur expliquer tout ça. Déjà, moi, j'avais du mal à me l'expliquer, alors pour l'expliquer...
Alors, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous vous taisiez, du coup ?
Non, j'écrivais de la poésie.
Mais moi, pour vous ?
Pour moi.
très intéressant parce que moi. Boris Cyrulnik, dont les parents sont déportés, qui est raflé à un moment mais qui réussit à se sauver et donc à échapper au camp, qui vit cette tragédie-là dans les années 40, ne va pas parler avant les années 80 puisqu'on ne l'écoute pas. Quand il dit « voilà ce que j'ai vécu, les adultes rient ». Il y a un parallèle entre vous, là, Boris Cyrulnik, Gaël Faye, non ? Ça doit vous sauter aux yeux.
Tout à fait. Ce qu'a dit Gaël, je l'ai dit. C'est-à-dire que, effectivement, quand l'entourage est effondré, la famille est effondrée, la culture est effondrée, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de projet. Donc, un enfant se développe dans la brume. S'il veut se sauver, il est contraint à développer son monde intime, le monde de la rêverie. Mais ce monde de la rêverie, il ne peut le mettre que en papier, c'est-à-dire qu'il peut le dire à un papier, alors que les autres, il ne peut pas le dire à un adulte, puisque les adultes le font taire ou ne l'écoutent pas. La phrase qui tue, c'est « après une guerre ou après un génocide », parce que pour le Rwanda, on doit parler de génocide, il n'y a pas d'autre mot. Et qu'après un génocide, la réaction des adultes, c'est le déni. Allez, c'est fini tout ça. On peut comprendre, on peut pardonner, parce que les gens veulent revivre. Ils peuvent pas vivre dans l'horreur. Donc on peut comprendre ça. Mais pour l'enfant, il n'a pas de clarté autour de lui. S'il veut se sauver, il faut rêver et donner forme à sa rêverie. Écrire des poésies. Quand je serai grand, je serai psychiatre. Faut être un peu givré pour avoir ce rêve à 11 ans.
Comment vous connaissiez la psychiatrie déjà ?
Alors ça, je me demande. Surtout qu'à cette époque-là, quand j'avais 11 ans, on n'employait pas le mot psychiatrie.
Qu'est-ce qu'on disait ?
Alors on disait aliéniste.
Ah oui.
Alors moi, j'avais découvert le mot psychiatrie, puis surtout autour de moi, j'entendais expliquer la guerre par des raisonnements absurdes. La guerre a été déclenchée parce que Hitler était syphilitique. Ah non, la guerre a été déclenchée parce que Hitler était hystérique. J'entendais des raisonnements comme ça. Et dans mon esprit, l'enfant, je me disais, il faut que je fasse psychiatrie. Et comme ça, la guerre pourra plus jamais revenir. Donc j'avais un monde intime, beau. J'étais heureux dans ce monde intime que je ne pouvais pas partager, sauf avec un papier. Et dès que j'ai su écrire, j'ai écrit des poésies.
Il y a phrase de vous que j'aime beaucoup, Boris, qui dit ça. Tout homme qui a approché la mort est condamné à la poésie.
Qui est-ce qui a dit ça ?
Vous.
Je suis encore d'accord.
On vous cite dans votre grand atelier. Oui. Isabelle Carré, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu dans Les Rêveurs ? Vous n'évoquez pas de tragédie du même ordre.
Non.
Vous n'avez pas connu la déportation de vos parents, ni le génocide rwandais. Mm-hmm. Mais vous avez vécu des souffrances familiales, des souffrances intérieures.
Justement, ça me fait penser à ce que racontait Gaëlle. Un jour, j'étais au collège avec mes camarades et tout le monde disait à quel point, quand même, on avait de la chance, etc. Et moi qui étais en prise à des complexités quand même familiales un petit peu trop lourdes pour mon jeune âge, j'aurais aimé pouvoir dire oui, mais enfin quand même, il y a des choses qui sont pas si faciles que ça.
Est-ce que vous pouviez dire...
Et je pouvais pas le dire non plus.
Vous n'avez jamais dit à cette époque-là, ma mère est défaillante, ma mère est dépressive et mon père vit une autre vie qui est l'homosexualité.
Non. Alors, l'homosexualité n'était pas la difficulté, ça je veux le préciser.
Oui, vous le précisez souvent, vous avez raison.
Ce que je dis qui est compliqué, c'est que, encore une fois, là aussi il s'agit d'un déni, c'est quand les choses sont cachées et quand les gens sont malheureux avec ça. À partir du moment où une homosexualité peut se vivre et où on est en accord avec soi-même, enfin c'est la phrase de Camus, qu'est-ce que le bonheur sinon l'adéquation entre un homme et la vie qu'il mène. Et quand ça c'est là, ça n'est plus un problème. D'ailleurs, je remercie Boris aussi pour ses prises de position par rapport à l'homoparentalité. Les exemples autour de lui montrent que les enfants, non, ne seraient pas malheureux parce qu'ils sont entourés de parents homosexuels, en aucun cas.
Vous, c'est dans l'époque de votre jeunesse que c'était compliqué.
Voilà, exactement. C'est le roman d'une époque.
Ah, vraiment,
c'est
les années 70.
On n'avait pas le droit, en fait, d'être homosexuel dans certaines familles, dans la plupart des familles, d'ailleurs. En tout cas, dans la famille dans laquelle mon père se trouvait, qui était une famille très modeste, en province, très catholique. Et voilà, donc il y avait une difficulté. Et puis, il y avait cette loi qui avait été votée dans les années 60, plus globalement, qui disait que l'homosexualité était un fléau à combattre. Donc dans ces cas-là, quand on est adolescent, comment vivre au grand jour, enfin comment même envisager de se projeter dans l'avenir en tant qu'homosexuel, c'est impossible.
Viviez-vous dans la brume, pour reprendre l'expression de Gaël Faye ?
C'est bizarre parce que pas tellement en fait. Moi je suis hypermnésique en ce qui concerne l'enfance. C'est très encombrant, mais bon, j'arrive à m'y retrouver. Quoi.
Mais à l'époque, cette souffrance d'avoir des parents assez défaillants, pour reprendre peut-être un terme trop...
Oh, je ne vous dirais pas ça, je dirais voilà, avec chacun sa problématique.
Comment
voilà.
vous faisiez alors?
Chacun a fini par trouver sa place, ça a été un peu long, mais...
Parce que l'écriture n'est pas arrivée tout de suite.
Mais c'était aussi merveilleux de voir à quel point, autour de moi, les gens essayaient de trouver leur vérité. Finalement, c'est un bel exemple. Il y a beaucoup de gens qui vivent à côté d'eux-mêmes et qui continuent à le faire toute leur vie. Et je les juge pas hein, pour ça.
Par exemple,
on fait comme on peut.
Les interrogations de votre père.
Oui, voilà. Et quand on arrive quand même à regarder quand même les choses en face à un moment donné, à se dire qu'on vit à côté de soi et comment on pourrait faire, même si c'est douloureux, ô combien douloureux, arriver à mettre les choses en perspective et être dans sa vérité, c'est quand même une belle éducation, finalement.
On va se retrouver, Boris Cyrulnik, avec vos invités de la deuxième heure de votre grand atelier, Gaël Faye et Isabelle Carré. Je voudrais qu'on écoute Bruce Springsteen, Hello Sunshine.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain. In skies of gray, hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
On parle de bonheur, au fond, depuis un petit peu plus d'une heure désormais avec le neuropsychiatre et l'écrivain Boris Cyrulnik qui sort chez Odile Jacob, La nuit, j'écrirai des soleils. Le bonheur, il commence à arriver quand dans votre vie à vous, Isabelle Carré, et grâce à quoi? Ce qu'on appelle en neuropsychiatrie la résilience.
ça, c'est vraiment... quand j'ai lu les Vilains Petits Canards, c'était un choc.
Un des livres de Boris Cyrulnik.
Ah oui, c'était un choc, parce que alors le mot résilience, quoi. Quel mot merveilleux.
Comment vous l'entendiez à l'époque?
Il y a donc une solution.
Pour vous, c'était quoi la résilience quand vous avez lu ça?
La résilience, pour moi, c'est le théâtre. C'est pas une personne... dans le livre, Boris explique qu'il suffit d'une personne, une seule, qui devient un tuteur de résilience, un peu comme avec les plantes, quoi, qui aide à se tenir droit. Mmh. Alors moi, j'ai pas trouvé ça en réfléchissant dans mon entourage, enfin tel que vous le décrivez, mais par contre, le théâtre, même
dès
si
16
c'est
ans,
pas
hein.
une personne, a été vraiment ça, ouais. Un moyen d'expression, en fin de compte, hein. C'est ça qui comptait, quoi. Et oui, pouvoir trouver une place pour les émotions. J'ai toujours eu le sentiment que les émotions étaient embarrassantes dans la vie quotidienne et gênantes, et que il fallait surtout les cacher ou faire attention à ne pas déborder par rapport à ça. Alors qu'au contraire, au théâtre, quand on arrivait tout à coup, on vous disait, bah si, vas-y. Au contraire. Pleurer au théâtre, c'est beau. Dans un bureau, moins.
Gaëlle Faye, vos émotions. Est-ce que vous avez exprimé des émotions quand vous avez commencé à écrire?
Je crois que je l'ai caché. J'ai l'impression que je les cache encore.
Ah oui?
Oui. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit un roman. Je serais incapable d'écrire sur ma vie.
Après des années de chansons et de rap. Hein.
Oui. Alors avec les chansons, j'y arrive un petit peu plus. Par exemple, mon premier album, c'était vraiment des chroniques autobiographiques. Mais il y avait la distance aussi que permettent parfois les mots et ce dont vous parlez, Boris, lorsque vous parlez de poésie. Recréer une langue irrationnelle qui dit la vérité du monde intime, qui comble le gouffre douloureux. Ce n'est pas le fait de dire des mots, c'est l'agencement des prosodies. Ça me parle beaucoup.
Comment ça résonne en vous?
Ça résonne d'une façon... Comment redire ce que l'on est, ce que l'on pense, sans pour autant utiliser les mots de la vie de tous les jours, en inventant une nouvelle langue qui dit, mais qui reste mystérieuse.
Où chacun peut s'engouffrer, au fond.
Exactement. Qui laisse la place à l'autre de rentrer aussi dans son monde. Parce que souvent, c'est la difficulté qu'il y a, je crois. C'est d'ailleurs, mon personnage, Gabriel, le dit
garçon,
dans le roman.
Oui.
Il dit, la souffrance est un joker dans le jeu de la discussion. Il couche tout sur son passage. Il ne permet pas à l'autre, parfois, de pouvoir rentrer dans le monde. Et la poésie, la littérature, je pense que ce sont des formes qui permettent ça, qu'une discussion peut avoir lieu. Par exemple, j'ai toujours été étonné par mes amis à qui j'offrais des livres, mes amis en France, à qui j'offrais des livres de rescapés, de survivants du génocide des Tutsis, qui étaient très gênés après avoir lu les livres, par la violence, finalement, des récits, et qui ont compris et qui se sont intéressés suite à mon roman. Parce que, d'un coup, il y avait peut-être une forme de distance liée à la fiction. Et donc, j'ai l'impression, quand même, que la fiction et la poésie restent aussi, pour moi, une façon de garder des choses. Je n'aurais pas encore le courage de pouvoir parler directement de ma vie.
Analyse instantanée de Boris Cyrulnik.
La poésie permet de s'exprimer par le détour des mots. Parce que comme vient de le dire Gaël, dès l'instant où on donne forme aux mots, on les objective, on fait un objet hors de soi. Mais je pense quand même que toute vision du monde est un aveu autobiographique. Même quand vous prétendez inventer quelque chose, vous inventez à partir de quelque chose que vous avez vécu. Alors vous faites comme je l'ai fait pendant longtemps, hein. C'est-à-dire qu'on fait des autobiographies à la troisième personne. On invente un auteur et on dit « il », mais tiens, mon œil, c'est « je ». Mais il faut des années, comme vous l'avez dit, il faut des années pour s'affirmer, se muscler. Mais Isabelle nous explique quelque chose sur le théâtre et les dessins que la fille de Gaël à côté. Nous, c'est son premier théâtre. Ça lui permet de supporter le vide, l'absence de sa mère, où mon père n'est pas là, je vais prendre son carnet et je vais faire sur son carnet dessin où je vais prendre ma place près de lui. Il n'est pas là.
Je précise que, montrez-nous un peu les dessins de votre fille sur votre carnet, là. Elle prend toute une page déjà pour écrire un vrai dessin. Hein, c'est pas dans un petit coin.
Elle s'est dessinée, donc c'est Louisa.
En vert, au feutre vert. Qu'est-ce que vous pensez de ces dessins?
Mais elle a pris sa place près de son père. Je pense qu'elle a dû lui voler son carnet quand il n'était pas là.
C'est ça.
Et elle a pris sa place. Donc, c'est une création où elle s'exprime.
Ne m'oublie pas.
ne m'oublie pas, j'existe aussi avec près de toi. Et alors, l'avantage du théâtre, c'est que on a des porte-paroles, et les comédiens sont nos porte-paroles. Et il y a un de vos collègues, Depardieu, qui le dit très joliment, ça. Il dit, j'ai été sauvé par les mots des autres.
Vous voulez qu'on l'écoute le dire, précisément? Depardieu, on a ce son-là, et un moment où il dit Cyrano, parce que je sais que vous aimez quand Depardieu dit Cyrano.
On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule.
J'ai toujours été traversé par la beauté des choses, par la beauté de ce que je voyais, de ce qui m'entourait. J'ai jamais vu, même dans des scènes sordides, de laideur. Je pense que la laideur, c'est de faire peur à des gens pour qu'ils rentrent dans un trou de souris. Je pense que la laideur, c'est les gens qui font peur par des idées. Il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas à parler parce qu'ils voient trop de choses qui sont monstrueuses. Moi, c'était par hyper-émotivité. Une hyper-émotivité où je n'avais absolument pas du tout confiance en moi, puisqu'on m'avait tué la confiance en ne me désirant pas. Et puis, toutes ces hyper-émotivités qui étaient en moi, je n'arrivais pas à mettre un mot dessus. Alors, parfois, ça sortait par juste le regard. Le regard sur les autres et le sourire. Le sourire, d'ailleurs, c'est ce qui permet aux gens de vous parler.
Voilà, Boris Cyrulnik, une réaction.
C'est très bien dit, parce que Depardieu a été élevé dans un monde sans mots, mais oui, pas sans affection. Et son père disait, si tu comprends pas, souris. C'est exactement ce qu'on fait dans un pays étranger. Quand on comprend pas la langue, on sourit bêtement, parce qu'on comprend pas, mais on veut pas fâcher. Alors on sourit pour amadouer. Donc Depardieu, son père, sans parole, lui a quand même appris ça. Et ensuite, il a été sauvé par les mots des autres.
Ah oui, il dit beaucoup ça, hein, j'ai été sauvé par les mots.
Par les mots des autres, oui. Puisque lui avait du mal, il vient de le dire. En revanche, dans Cyrano, c'est un Cyrano magnifique.
Magistral.
C'est-à-dire que là, il est sauvé parce que, alors qu'à l'époque où c'était un petit voyou, il disait « je donne des coups de poing parce que je ne sais pas parler ». Mais à cette époque-là, il avait dans sa poche Molière. Il avait dans sa poche les mots des autres. Et j'imagine qu'il éprouvait un plaisir intense à réciter les mots des autres, puisque lui n'avait pas ses mots à lui. Donc il a été sauvé par les mots des autres.
Et à quel âge vous avez réussi à mettre des mots?
Je me racontais des histoires très très tôt.
Mais aux autres, à partager, à parler de votre expérience?
J'avais une partie de ma personnalité qui paraissait normale, donc je bavardais, mais je me cachais derrière les mots. Je racontais beaucoup d'histoires pour ne pas dire « je ».
Gaël Faye, bonjour.
Donc j'ai osé dire « je » quand, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand la culture a changé, dans les années 80.
Mais c'est tardi, vous aviez quel âge, si je peux me permettre?
Oh ben, j'avais 45 ans.
Mais c'est énorme.
C'est intéressant parce que ça prouve bien, voilà, on peut avoir la meilleure volonté du monde, on est aussi le produit d'une époque. Et si on n'a pas, l'écoute, l'accueil nécessaire, c'est impossible, quoi.
C'est en fait quand Joad Lanzmann apparaît. Voilà, que vous vous libérez progressivement.
Il y a eu le film de Shoah, où tout le monde a découvert un problème que les gens déniaient, parce que c'est un problème inimaginable, insupportable, donc je leur en veux pas. Mais donc, Lanzmann a rendu visible ce film, le procès Papon a rendu audible dans la presse, partout, tout le monde en parlait, et à ce moment-là, on m'a donné la parole, la culture m'a donné la parole.
Mais pendant 45 ans, vous n'avez pas eu cette parole.
Alors que pendant 45 ans, culture m'empêchait de parler. Qu'est-ce que tu racontes là? Où vas-tu chercher tout ça?
Mais ça ne vous a pas rendu haineux?
Pas du tout.
De ne pas être entendu?
Non, non, ça m'a coupé en deux. Je ne pouvais dire que ce que les autres étaient capables d'entendre.
Et quand vous avez pu écrire, vous vous êtes senti unifié?
Recousu. Dans notre langage, on dit « mon moi a été déchiré ». Et quand j'ai pu écrire, et donc avoir des lecteurs, mon moi a été recousu. Mes lecteurs m'ont bien soigné.
Ah, alors l'écriture est-elle une thérapie? C'est une grande question qui touche toute la littérature. J'ai l'impression que Gaël Faye répond oui. Vous avez dit un jour, elle m'a soigné l'écriture quand je partais en vrille.
Ouais, oui, complètement. Je me pose toujours la question de qu'est-ce que je serais devenu s'il n'y avait pas eu une feuille, un papier.
Est-ce que vous auriez été violent?
Je ne peux pas répondre non, c'est possible.
Parce que Petit Pays montre un enfant qui veut garder son innocence, ouais. Son enfance et la beauté de son ouais. paradis perdu, alors que les autres sont déjà pas loin du gang oui. et entrent dans le gang.
Mais Gabriel était un enfant tendre, moi j'avais une révolte en plus de ça. J'avais une très grande révolte liée à... Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice autour de moi, et cette injustice me révoltait. J'étais aussi révolté par le fait que... Pendant 3 mois, le monde entier avait assisté à ce génocide au Rwanda et personne n'avait rien fait. Et c'était un génocide en direct. Et au moment où je voyais tout cela, il y avait la Coupe du Monde, il y avait Ayrton Senna qui faisait la une des journaux, il y avait Kurt Cobain qui venait de se suicider. Et ça prenait beaucoup plus de place que la disparition de ma famille, de tout ce peuple. Et c'est vrai qu'en arrivant en France, je ressentais aussi en moi une incompatibilité entre le fait d'être Rwandais Tutsi et Français. Parce que lorsque j'étais à Bujumbura, les Tutsis me reprochaient d'être Français. Ils me disaient « tu es un collaborateur ». Les Français ont soutenu les génocidaires au Rwanda. Et moi, gamin de 12 ans, pour moi c'était une injustice. Tout ça était injuste.
Mais vous n'êtes pas devenu violent.
Parce que j'ai écrit.
Parce que j'ai écrit. Et
alors ça, c'est un hasard total. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une petite sœur pour écouter mes textes. Ah. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il faut que je le reconnaisse parce que même si c'était des mots pour moi, il y a une personne à qui j'ai osé lire ces poèmes. C'est la chose qui a été le plus difficile dans ma vie, c'est trouver la confiance en moi, m'affirmer.
Aujourd'hui, ça va.
Ça reste un combat, et c'est pour ça que j'adore la scène, parce que la scène, il y a toujours ce moment, juste avant, où je me dis, je n'y arriverai pas. La salle est pleine, les gens sont là, le trac immense, j'ai envie de prendre les jambes à mon cou, et lorsque je termine...
Parce que moi, je t'ai vu sur scène, Gaël, alors c'est une telle émotion...
C'était où ?
C'était à la Maison de la Poésie, et c'était une lecture de Petit Pays.
Lui, avec le pantalon blanc, c'est un hutu. Il est petit avec un gros nez. Ouais, et lui là-bas, avec le chapeau. Il est immense, tout maigre, avec un nez tout fin, c'est un Tutsi. Et lui là-bas, avec la chemise rayée, c'est un Hutu. Maintenant, regarde, il est grand et maigre. Oui, mais il a un gros nez. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire « Regardez, c'est un Tutsi avec son nez !»
Je ne sais pas senti, moi, qui vois bien ce genre de choses, puisque je le connais aussi de l'intérieur. Le trac, on ne le voit pas du tout chez toi. Au contraire, on sent que tu respires librement, que tu es chez toi, que tu es... Et puis tu partages une émotion. Enfin, à la fin, tout le monde était en larmes. C'était magnifique.
Et c'est là que j'ai l'impression de triompher. C'est mon épopée à moi.
C'est comme les grands timides qui sont obligés d'aller encore plus loin, parce que sinon...
Vous êtes un guerrier, finalement.
C'est vrai que ça me donne cette sensation. C'est pour ça que j'adore la musique et la scène, parce que ça me donne cette sensation. Beaucoup plus que l'écriture, parce que c'est solitaire, et puis que lorsque les écrits arrivent au lecteur, nous ne sommes pas là. Alors que là, c'est de la chaleur. Ouais.
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910, pupille de l'assistance publique. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Enfin, par elles dont je porte le nom, le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs. Elles sont de ma famille. Si par elles, je rejoins aux domaines inférieurs, et c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues que je voudrais descendre, je m'éloigne encore des hommes.
Un poète dans le grand atelier de Boris Cyrulnik, c'est Jean Genet, Isabelle Carré.
Oui, ça me fait penser à un autre poème de Sylvia Plath qui s'appelle « Je suis verticale, mais je voudrais être horizontale ». Et elle termine en disant « J'aimerais bien être allongée là et peut-être alors les arbres pourront me regarder et les fleurs m'accorder du temps ».
C'est vrai que vous l'avez lu en scène, Sylvia Plath.
Hein, oui, je l'ai enregistré aussi, mais je voulais lire à moi un petit texte que j'adore, juste une petite phrase de Boris que j'aime beaucoup. « Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur ». Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment et grâce à qui l'on pourra le surmonter. Et je trouve qu'il y a une époque où on veut tellement, tellement que tout soit lisse, parfait, être des gens performants, être des gens heureux, toujours joyeux. C'est un beau message à faire passer que finalement on a aussi besoin par moment d'accepter nos tristesses et de porter nos fardeaux.
Est-ce que Boris Cyrulnik vous a aidé à écrire votre premier roman, vous a dit d'une certaine manière, vous lectrice de Cyrulnik, vas-y, écris, lance-toi, tu as des choses à dire et peut-être que tu auras mieux, entre parenthèses.
Ben c'est sûr que Boris a un message d'espoir à lui tout seul et c'est un message aussi pour assumer, accepter tout ce qu'on est dans sa multiplicité et d'assumer en fait tous les possibles en nous. Ce que dit Pirandello, on n'est pas un, on est mille, et d'être cette pluralité-là, avec ses failles, avec ses, voilà, pas présenter juste l'image d'Épinal, mais
on est mille et on est bien plus nombreux quand on est comédien, puisqu'on est encore plus que soi, que ces mille-là. Et un jour, Isabelle Carré, Boris Cyrulnik, a dit « J'ai envie de posséder toute mon histoire et de me mettre à écrire ». C'est beau comme définition de la nécessité d'écrire.
C'est le raccommodage, c'est-à-dire que si je ne peux pas m'exprimer, je suis amputé d'une partie de ma personnalité. Alors effectivement, beaucoup de gens sont attirés par l'écriture et par le théâtre, parce que le théâtre, ça nous offre une scène, ça nous offre le cadre des autres. Par exemple, beaucoup d'enfants qui bégayent ne bégayent pas sur les scènes de théâtre, parce qu'ils ont un cadre. Alors je pense que c'est une belle illustration de ce que vient de dire Isabelle, c'est-à-dire que dans la vie, on ne peut pas échapper à la souffrance. On a tous notre part. Et vouloir prétendre vivre dans une culture où on va éradiquer la souffrance, c'est pas possible. En revanche, on peut faire quelque chose de la souffrance. On peut en faire une poésie émouvante. On peut en faire des pièces de théâtre passionnantes. On peut en faire des livres. On sera pas d'accord, on va se disputer. Et alors, c'est la vie. L'angoisse, la souffrance font partie de la vie. Et quand j'étais neurologue, il y avait des accidents de voiture, il y avait beaucoup de lobotomies parce que la vitesse n'était pas réduite. Et quand il y avait des lobotomies latérales, l'amygdale, je fais deux phrases de science, de
allez-y,
neurologie.
Allez-y, on vous autorise même trois.
L'amygdale, qui est le socle neurologique des émotions insupportables, d'angoisse, de colère, de désespoir, on le sait parce que quand il y a une tumeur ou un accident vasculaire qui le touche, les gens éprouvent des émotions insupportables. Si on peut écrire une poésie, si on peut faire un travail d'élaboration, on métamorphose la souffrance, on en fait quelque chose. On souffre, mais on en fait quelque chose. Et quand les gens ont eu des lobotomies après accident de voiture, qu'est-ce qu'ils me disaient ? Je regrette l'époque où je souffrais, parce qu'au moins je me sentais vivant. Et maintenant que je ne souffre plus, je suis mort. C'est-à-dire que la souffrance fait partie de la condition humaine, je crois même que ça fait partie de la condition du vivant, puisque même les plantes souffrent. Jean Genet l'a joliment dit.
Vous parlez peu de votre souffrance. J'en parlais avant que vous n'arriviez à Gaël Faye. Je lui disais que de livre en livre, ce thème de la résilience court parmi tous vos livres, on ne sait pas grand-chose du petit garçon qui a souffert. Vous nous parlez de votre résilience. Le fait de vouloir devenir psychiatre, d'avoir été étudiant en médecine et puis d'avoir écrit, vous a sauvé hein, de la dépression et de la mort. Mais vous ne parlez pas de ce que vous avez vécu émotionnellement. C'est de la pudeur ?
Non, c'est parce que quand je dis « je », c'est pas un jeu autobiographique. C'est-à-dire que je suis pas loin de ce que a dit Gaël tout à l'heure. C'est un jeu qui illustre une théorie. Je mens pas, mais je choisis dans mon passé ce qui peut illustrer un argument théorique qui lui-même d'ailleurs vient d'expérimentation, puisque les théories de l'attachement, c'est les théories scientifiques. Il y a la résilience neuronale qu'on photographie, qu'on mesure, qu'on dose, la résilience affective, où on voit l'importance du travail de la parole, et comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, la résilience culturelle, il y a des cultures qui font taire et qui contraignent au clivage, alors que d'autres cultures, au contraire, invitent à la parole. C'est pour ça que le théâtre et la poésie et le cinéma, et même les journalistes, sont importants, parce que c'est les fabricants de mots. Et la condition humaine, ça se passe dans la parole. Il y a mille manières différentes d'utiliser la parole. Alors non, je ne dis pas un jeu intime. C'est un jeu illustratif d'une théorie.
En ce moment, je suis en train de lire un livre, on en parlait tout à l'heure, parlant de Aaron Appenfeld, qui disait qu'on pouvait pas écrire, en fait, je rebondis sur la question de pourquoi pas parler vraiment plus précisément de sa souffrance.
Oui.
On ne peut pas parler de la Shoah, on peut écrire autour de la Shoah, mais parler précisément de la Shoah, on ne peut pas. Et pourtant, lui, il a écrit des livres très autobiographiques.
C'est quel livre, celui-là?
Et il dit même, alors c'est dans Le faisceau des vivants de Valéry Zenati, c'est-à-dire c'est un peu un portrait de lui. Il dit, il est vrai que c'est impossible, il y a des températures que l'on ne peut pas toucher. Des températures très élevées dans lesquelles on ne peut pénétrer. Sur la Shoah, je dirais que l'on peut se taire d'un silence profond et continu ou pousser un grand cri continu, mais on ne peut pas écrire. On ne peut pas écrire des phrases, des rythmes, des métaphores. Tout ce qui est lié à ça, et sur ce sujet en particulier, je préfère le silence.
Boris Cyrulnik.
Alors, quand on souffre, on serre les dents. On se recroqueville, on parle pas. Ce qu'a dit Gaël tout à l'heure. Mais on peut pas passer sa vie à serrer les dents et à ne pas parler. Quand la parole revient, il faut qu'elle soit partageable, puisque la fonction de la parole, c'est de partager, de faire un monde commun qu'on pourra habiter tous les deux. Donc, si la parole n'est pas partageable, autant se taire. Mais dans ce cas, on est coupé en deux. Une partie qui souffre, sans pouvoir mettre des mots sur la souffrance. Ce que Isabelle vient de dire. Et l'autre partie, elle risque de devenir un peu conformiste. C'est bien qu'on a un choix difficile. Si on veut s'intégrer dans une culture, il faut accepter une part de conformisme. Si on accepte tout, on est un clone. On abîme sa personnalité. On est comme tout le monde. Et les régimes totalitaires veulent qu'on soit des clones. Et dans un régime totalitaire, un homme en vaut un autre, une femme en vaut une autre, il n'y a plus de personnalité. C'est des clones. Dès l'instant où on n'évite pas la souffrance, c'est la condition du vivant, ou bien on souffre en secret, on serre les dents, ou bien si on veut vivre quand même, il faut métamorphoser la souffrance et en faire des poésies, des chansons, des essais, du théâtre, quelque chose qu'on peut mettre en scène. C'était la fonction du théâtre grec. Les citoyens allaient au théâtre, les comédiens mettaient sur la scène les problèmes de la cité, on fermait les portes et les citoyens devaient discuter. C'était la fonction démocratique. Dès l'instant où l'imprimerie est apparue, les livres ont permis la fonction démocratique. Le partage du savoir était le premier pas vers une démarche démocratique. Alors que c'est le partage du savoir, c'est pas la récitation. La récitation, c'est toujours les mêmes mots, c'est la soumission à la langue du chef, que ce chef soit un chef religieux, un chef idéologique, ou même parfois un chef scientifique, c'est la soumission, on récite. On a ses diplômes comme ça, on est un perroquet, je suis un perroquet diplômé. C'est-à-dire que si j'ai eu mes examens, c'est parce que j'ai récité la voix des maîtres. C'est pas l'authenticité de la poésie, c'est pas l'authenticité du théâtre, c'est pas l'authenticité du travail de la parole, l'agencement des prosodies. Et en neuro-imagerie, on voit que quand quelqu'un fait l'effort de chercher des mots, de les agencer pour en faire une poésie, ça modifie le fonctionnement cérébral. On le mesure et on le photographie. L'effort intellectuel que provoque la parole, à condition de travailler, d'élaborer la parole, modifie la manière dont notre cerveau fonctionne. Et à ce moment-là, on voit le monde un peu différemment.
Je vais faire réagir dans un instant Gaël Faye et Isabelle Carré, vos invités, Boris Cyrulnik, mais je voudrais qu'on écoute un peu de tango argentin, parce que vous le pratiquez, vous saviez Isabelle Carré que Boris Cyrulnik est un grand danseur de tango.
Je sais pas.
Il ne peut pas nous le prouver, on est à la radio hélas, mais on va écouter l'un de ses maîtres, c'est Piazzolla et son célèbre Libertango. Thank you.
Gaël Faye, je voulais que vous réagissiez à ce que vous avez entendu à l'instant, ce besoin de partager. J'entendais ce mot-là dans la bouche de Boris Cyrulnik. Il vous est venu assez rapidement, hein, partager vos mots avec un public.
Oui, avant de partager avec un public, je voulais partager avec, disons, des amis, des collègues. Je voulais avoir une bande. Je voulais appartenir à un groupe.
Ah, comme dans votre enfance et comme dans Petit Pays.
Oui, mais un groupe de la création, pas un groupe de copains simplement pour être copains et faire les 400 coups. Je voulais pouvoir dire mes textes à des personnes qui eux-mêmes créaient. J'avais envie d'un compagnonnage et c'est pour ça que la musique est arrivée, parce que le rap, c'était la musique de ma génération, la musique où l'on parle à la première personne, où l'on raconte sa vie sans filtre, directement, où l'on aborde des sujets qu'on n'aborde pas à l'école, qu'on n'aborde pas dans les discussions de la vie de tous les jours, qui nous permet aussi d'être transgressif. C'est aussi pour ça que c'est une musique qui est aimée par les adolescents, parce que c'est là où on peut utiliser l'ensemble des mots, les grossièretés, les insultes. Et c'est vrai que ça a été pour moi l'endroit où j'ai pu, par exemple, inventer ma langue. Je parlais un français de Bujumbura.
Ça donne quoi alors?
Non, mais disons que pour dire certaines choses, on utilise des mots en kirundi, en swahili, comme je le fais dans Petit Pays. Et cette langue-là, où est-ce que je pouvais l'utiliser, si ce n'est dans ce lieu-là du rap? Et ce lien-là m'a permis d'avoir une écoute des gens avec qui je pouvais écrire, avec qui je pouvais créer, m'a permis la confiance en moi, pour m'affirmer au monde.
Confiance qui ne cesse d'augmenter, puisque vous avez publié ce livre qui a eu le prix Goncourt des lycéens.
Oui, exactement.
Et puis, vous continuez d'écrire, comme Isabelle Carré, oui, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres romans en cours, là?
Bien sûr, il y en a. De toute façon, j'écris tous les jours. Maintenant, je ne me laisse plus le choix.
Donc, il y a plusieurs romans en cours?
Oui. Je travaille sur deux romans en parallèle, mais parce que...
Vous dites ça en étant timide.
Non, mais parce qu'il y a un des romans qui me demande énormément d'archives, de consulter beaucoup d'archives, et c'est pour ça.
Mais, c'est pour bientôt, ouais. Alors
Je sais pas.
Chez Grasset, peut-être, éditeur que vous partagez avec Mademoiselle Carré. Oui. Le deuxième roman va venir?
Ah, je vais faire la même réponse que mon camarade. C'est en cours, effectivement, oui.
Justement, je parle du bonheur, j'emploie l'adjectif heureux. Question très difficile et en même temps simple. Isabelle Carré, aujourd'hui, êtes-vous heureuse?
C'est ce que racontait Gaël quand il parle de groupe, c'est ça, je disais cette histoire d'Andersen, quoi, en fait, de trouver un endroit, et oui, grâce au théâtre, effectivement, j'ai trouvé un endroit où je me sentais à l'aise, où je me sentais bien, où j'avais pas l'impression d'être inadaptée, où je sais pas comment dire, et l'écriture aussi me donne un sentiment d'avoir un lieu, une place, ouais. En fait, trouver sa place, quoi.
Gaël Faye, êtes-vous heureux?
Oui, je suis heureux parce que je ne triche pas avec qui je suis. J'ai joué des rôles dans ma vie. J'ai souvent porté des masques et je ne porte plus de masques. Et donc, juste pour cette raison-là, je suis heureux.
Boris Cyrulnik, est-ce que vous êtes heureux?
Ça m'arrive, mais ce que j'ai appris de la vie, c'est que si on ne fait rien, le malheur arrive tout seul. Et que le bonheur, il faut le chercher. Il faut y travailler. Et c'est possible.
Merci beaucoup Vincent Josse pour cette rediffusion du grand atelier de Boris Cyrulnik du 19 mai dernier.